fil. Change de ville, quitte le foyer. J'étais le soleil qui éclairait ta lune. Habitek flehlal, t'as préféré aboyer. Maman, si ta maman l'aura, on doit se sauver pour ça, faut délover. Khali qolo sauvage, mauvais.
Beurre FM. Beurre FM. Il est 19h. Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Bonsoir et bienvenue sur Beurre FM. Nous sommes le mercredi 15 juillet et vous écoutez Time Sport comme chaque soir. Chaque soir, oui, de 19h à 20h. Chères auditrices et auditeurs, n'oubliez pas que vous pouvez réagir à l'antenne avec nous en composant le 01 53 48 3000, mais également sur Twitter en bombardant le hashtag Time Sport. Ce soir, on commencera par se la jouer olympique avec Marseille d'abord, dont le feuilleton du rachat continue d'animer l'été phocéen. Et puis Lyon ensuite, pour voir où on en est, où on est. La préparation des Gaunes au retour de la Ligue des Champions, puis le futur aussi de l'Olympique Lyonnais, ma foi. Puis nous recevrons Grégory Boulicot, dirigeant de GB Consulting et préparateur mental. Après quoi, nous irons faire un tour sur les bords de la Tamise où notre Oliver Giroud national se refait la cerise avant de prendre le chemin des monts du Forez qui s'embrasent autour de l'avenir de Stéphane Ruffier en vert. Enfin, histoire de boucler la boucle, nous terminerons de manière olympique avec les Jeux. Cette fois, qui pourraient bien voir leur format réduit pour 2021. Allez, roulez jeunesse, go Time Sport.
Time Sport.
Ce soir, plateau de choix, comme d'habitude. Vous allez me dire, plateau de choix avec, eh ben, vous l'avez entendu avec son public. C'est notre ami Karim Baldé, comment vas-tu?
Bien le bonsoir, salut à tous.
Notre ami Meshad.
Bonsoir.
Quelle voix veux-tu aujourd'hui?
Je sais pas. L'autre fois, la crooner, t'avais pas réussi. On avait trop parlé d'Arsenal, ça t'avait déprimé.
Ouais. En tout cas, quelle introduction.
Ah, je t'en remercie. Ça va, cette fois, pas d'Arsenal. Ça va très bien. Pas d'Arsenal au menu.
Mais Olivier Giroud.
Mais Olivier Giroud. Tu vois. Bon, la première ligue quand même.
C'est parallèle comme ça.
Smile, comment vas-tu?
Avec le smile.
Tu as le smile. J'ai failli la faire. Tu me coupes l'herbe sous le pied. Et bien sûr, on reviendra après. Plus précisément avec notre invité Grégory Boulicot. Comment vas-tu?
Ça va très bien, merci beaucoup, bonjour à tous.
Super, bon allez, on file à la commanderie, c'est parti, c'est le ras-le-bol.
Time Sport, le ras-le-bol.
Et oui, on va mettre les cigales là un petit peu, parce que là on part parler de l'OM, et croyez-moi que l'affaire elle est pagnolesque presque, puisque ça n'en finit plus toutes ces histoires avec le rachat par l'Arabie Saoudite éventuellement de l'Olympique de Marseille. Et ce personnage, Mohamed Ajroudi, dont nos collègues de l'équipe ont dressé un drôle de portrait. C'est là que ça devient pagnolesque. Hein. C'est qu'on a l'impression d'être au comptoir et que tout le monde te raconte son histoire. Et puis lui, je sais que je l'ai vu une fois. Il connaît Depardieu. Il connaît Floyd de Mayweather. Voilà, c'est un peu compliqué.
Ah, on craint des gars là-bas.
Sent la sardine pourrie là.
On y vient. Smile. Alors. Ça sent la sardine pourrie, toi, ouais. Tu dis carrément.
Moi, je pense qu'il y a un nouveau jeu qui a été créé après Jacques Addis, c'est Ajroudi, pour le coup, parce qu'il dit rien, mais tout on dit pour lui. C'est un truc de fou. Après, c'est l'Olympique de Marseille, ça a toujours été comme ça, hein, cache-car. On en parlait aussi un petit peu avant avec Qualify Airways, qui pour le coup était sponsor avant, et maintenant, c'est un club assez volcanique, on va dire. Ça pétarade de partout, et on dirait vraiment. C'est un peu la foire, quoi. Et puis moi, en tant que supporter parisien, ça me fait marrer de manger des pop-corn et regarder se casser la gueule.
Smile, lui, il est vindicatif. Tu as tranché pour toi. C'est une mauvaise affaire. Bon, alors vous, si vous essayez de trancher ou d'essayer de définir le faux du vrai,
c'est ça qui est difficile. Justement. C'est ça qui est difficile. Et oui, quand on voit les portraits qui sont dressés, homme d'affaires, oui. Dans quoi? Même à la lecture des portraits, on ne sait pas exactement en fait s'il est expert en quoi.
A priori, un ingénieur hydraulique, c'est comme ça qu'il se définit. L'école, a priori à Lille, qui lui aurait décerné son diplôme, ne dit jamais avoir eu de traces d'un personnage nommé Mohamed Ajroudi.
Oui, il a traîné dans ses archives.
Il aurait racheté, se serait attribué des inventions d'un autre ingénieur. Meshad, on va où? Explique-nous.
Alors, je ne sais pas où on va, mais moi, à l'inverse, je trouve que la politique de putsch qui est mise en place là à l'Olympique de Marseille, elle est très intelligente. Parce que depuis que Mourad Boudjelal a annoncé vouloir reprendre le club, on ne fait que parler de ça, quoi. Et donc, on assiste à une vraie incitation de la part de la population marseillaise pour reprendre le club. Enfin, tu sens qu'il y a une vraie ferveur qui est revenue, qui avait disparu. Et moi, je trouve que, alors qu'on en parle en bien ou en mal, ça c'est autre chose, mais on en parle. Et je trouve que la stratégie, elle est très intelligente. Alors, les informations pour le coup, parce que j'en ai un petit peu, on travaille un petit peu aussi.
Oui, on travaille un petit peu.
Officiellement, la position de Macron, c'est qu'effectivement, il veut pas vendre. Sauf qu'officieusement, c'est combien tu me donnes, quoi. Voilà, ça c'est la vraie position, visiblement, et ça pour le coup on le sait, et pour le coup je vous le dis, c'est d'une source sûre, Macourt, lui, voudrait 300 millions sur le club, sauf qu'aujourd'hui les Saoudiens et Mourad Boudjal proposeraient 200 millions.
Voilà. Donc
c'est pas irréconciliable non plus.
Non, je pense que ça va, se faire, et en plus ça pousse fort derrière pour que ça se fasse. Ouais. Donc voilà, moi encore une fois, je trouve que c'est très intéressant.
Toi, ton propos, c'est que Ajroudi, pas Ajroudi, personnage obscur, pas personnage obscur, il y a quelque chose qui est en train de se passer, et ça, c'est sérieux.
Ouais, carrément. Ouais, non, mais ça, c'est on va dire que c'est officieux. Voilà, c'est pas officiel, mais c'est officieux. C'est spécial, mais encore une fois, ce club a besoin d'être pris. Et il va être pris parce que là actuellement l'Olympique de Marseille c'est 150 millions d'euros de pertes par mois. Je veux dire, à un moment donné, Macourt, il va pas pouvoir tenir sur la longueur au vu des investissements qui ont été faits, quoi. C'est juste pas possible. Donc si on se rapproche de la somme des 300 millions, ça partira et ça partira pour.
Moi je suis pas très convaincu pour notre ami. Clairement. Moi je veux que clairement Marseille, puisse être pris par un riche investisseur, pas que riche et qui investisse aussi. Des gros sous et que Marseille devienne une deuxième locomotive du championnat de France, comme
c'est
j'aimerais.
C'est leur place.
Bien sûr, c'est leur place.
Et, puis,
et j'aimerais aussi qu'il y ait un autre club aussi en Ile-de-France pour qu'on puisse avoir des vrais derbies aussi, comme en Angleterre.
Tu penses à quoi?
C'est bien dommage, ou en Espagne ou autre.
Je pense plutôt au Paris FC.
Plus au Paris FC qu'à Créteil ou au Red Star.
En fait, le Paris FC, t'as Paris dedans. Donc c'est déjà vendeur. Pour un investisseur. Donc, si tu.
Il y a un stade aussi qui
Il y a un stade aussi mal, quelque part, même si. Pas, voilà, après, il y a le Stade de France, il y a toujours moyen de s'arranger. Oui. Sauf que Paris va déménager au Stade de France pendant ses travaux. Ça peut faire un peu comme San Siro, qui se partageait l'Inter et le Milan. C'est, enfin, bon, bref, là, j'extrapole pour le coup. Mais Marseille, en fait, tu vois, quand Paris a été pris par les Saoudiens, les Qataris, pardon, je vais me faire allumer là. Ouais. Les Qataris, excusez-moi. Il y a eu le plan Rouleau-Proulx, là, tu vois, qui a été enlevé. Il y avait une prépa. Là, tu sens rien du tout. Tu dis que là, c'est en train d'être négocié.
C'est brut de pomme.
Le championnat, il va revenir. Les transferts, c'est jusqu'au mois d'octobre, si je me trompe pas. Enfin, je pense que ça prend du retard.
Jusqu'en octobre, en France.
Ça reprend du. Non, mais l'idée, c'est qu'ils achètent le club et qu'ils essaient d'avoir une équipe plutôt compétitive pour essayer de concurrencer Paris, au moins sur le championnat. Ouais. Pas se faire déglinguer en Ligue des Champions. Au moins, à la rigueur, passer en 8e ou aller en Europa League et pas faire un parcours trop dégueulasse, ça pourrait être pas mal. Maintenant, ils prennent vachement de retard. Enfin, tu vois, tu te rends compte.
Oui, mais
que
c'est comme d'habitude à Marseille. Macron, ça a été pareil. Il est arrivé en janvier, je crois, et il n'y avait plus de place pour le mercato.
Ouais, mais
c'était 6 mois de.
Ça a été préparé plus longtemps et c'était plus en amont que là. C'est vrai que là, l'été passe vite, les mois passent vite, c'est un achat. C'est pas rien.
Oui, mais le premier mercato marseillais, bah, c'était pas le mercato d'hiver, c'était le mercato d'été suivant. Donc forcément, il y a toujours ce temps de rodage.
Ouais, mais
et là,
rien,
pareil,
t'as rien. Regarde, moi, j'ai rien contre Payet. Tu prolonges pas Payet qui a 33 ans, tu prolonges pas 4 ans. Quand tu sais qu'il y a un investisseur qui va arriver, qui va poser des gros sous, qui aura un business plan dans sa tête et qui a une planification sur plusieurs années avec des objectifs à moyen et à court et à long terme, tu te dis quand même, tu récupères un mec à la fin, il va rester jusqu'à 37 piges. Après. Payet, c'est pas un athlète hein, réellement. Quand tu regardes d'autres personnes au niveau de la, physiquement comment il est, c'est pas un athlète comme Ronaldo ou autre. Enfin, je parle de physiquement, on parle du pas niveau du sport. Mais bon, c'est spécial. Moi, j'y crois pas trop. Finalement.
Après, la situation, elle risque d'être très compliquée parce que Mourad Boudjelal va au contact de tous les clubs de supporters. Et s'il n'y a pas ce fameux rachat, on risque d'avoir de la tension. On parlait de ferveur marseillaise. Ouais. C'est sûr que ça risque d'être très compliqué si on devait avoir une reprise de championnat avec l'actionnaire actuel.
Mais quoi qu'il arrive, ça va être compliqué en fait, parce que si Macourt reste et que ce projet tombe à l'eau, bah du coup il aura la pression, parce qu'on a vendu du rêve, et je rejoins ce que tu dis, on vend du rêve aux supporters actuellement avec ce projet saoudien, avec Boudjelal, etc. Donc là, ils vendent du rêve, à un moment donné on s'attend à l'austérité, puisqu'il y a beaucoup de dettes, puisque il y a un mercato où des joueurs doivent partir, ils arriveront peut-être pas à trouver preneur ou du moins pas pour les sommes pour lesquelles ils veulent. Donc du coup, on leur vend du rêve. Si McCourt reste, bah les supporters vont être frustrés, ils vont dire bon maintenant, comme disait Godin, quand McCourt est arrivé, il va falloir mettre les sous. Et à l'inverse, si les Saoudiens arrivent, bah va falloir aussi mettre les sous, il y aura aussi de la pression. Donc malheureusement, ça n'occupe rien de très calme. Mais toi à Marseille, ce n'est jamais calme en même temps. Donc je trouve que je calme du calme à Marseille.
Simon, c'est que il y a une vraie volonté de reprendre le club. Voilà. C'est pas juste des conneries, c'est pas
en tout cas,
chapeau, il y a une vraie volonté de vouloir reprendre le club. Après, effectivement, ça dépend de McCourt et de sa volonté de vendre.
L'identité aussi, c'est vrai que, ouais, comme tu le disais, l'identité des futurs repreneurs éventuels n'incite pas à la confiance. On a vu en rugby avec Béziers ce qui se passe aussi, où il y a un projet Qatari, etc. Voilà, ces projets-là obscurs. Ça sent pas tout.
C'est compliqué. En tout cas, c'est vrai que dans les médias, la chose est avancée et que maintenant, c'est difficile de faire marche arrière. Bon, si vous le voulez bien, l'OM, en effet, va en tout cas devoir préparer une Ligue des Champions dans tout ce bazar. Ça va être assez compliqué. Mais là, on va partir un peu plus au nord. On va quitter les Bouches-du-Rhône pour aller en Saône-et-Rhône. Sur le Rhône, on remonte le Rhône jusqu'à Lyon parce qu'eux aussi, ils ont une Ligue des Champions à préparer dans très peu de temps. Match retour contre la Juve. Comment ça se prépare du côté de Tolentino? La Vologue.
Je te laisse.
Vas-y, partage mon méchant. Vas-y, mon méchant.
Ne saute pas.
Dis ce que tu as à dire. Voilà.
Je saute un petit coup.
Comment tu prépares la Danone Cup?
Il est rigolo, hein, du côté du Paris Saint-Germain. Bon. Non, ce qui est certain, c'est que déjà, la différence de Marseille, c'est qu'il y a une structure. Donc, déjà, ça change la prépa. On va récupérer des joueurs comme Memphis Depay et comme Jeffrey Adélaïde, qui était probablement le meilleur joueur avec Memphis avant leur blessure. Le club n'est pas pressé de vendre, contrairement à certains autres clubs de Ligue 1, et également n'est pas pressé d'acheter. Je pense qu'ils sont sur une continuité et l'idée, ça va être déjà d'assurer la finale de la Coupe de la Ligue.
De la Ligue, tout à fait, la dernière.
Exactement. Exactement.
La Ligue.
Paix à son âme.
À Paris.
Pour le coup, assez serein. Rudy Garcia semble, à chaque conférence de presse, il a le sourire, il est très content d'être là.
Pourtant, c'est rare qu'il sourit.
Oui. Ouais.
Est-ce que vous êtes aussi serein que notre ami Méchat sur la préparation de cette rencontre face à des Turinois? Enfin, voilà, faut les affronter, les Turinois, quand même.
Alors, Turin, je sais pas si les gens regardent les matchs en ce moment, mais Turin, c'est très compliqué. Turin, il y a, tactiquement, j'entends, il y a pas grand chose. On se repose beaucoup sur Ronaldo, c'est beaucoup de longs ballons. Et en plus, ce qui est bizarre, c'est que Sarri, pour le coup, il est totalement aux antipodes du jeu qui est actuellement en place à la Juve. Tu sens qu'il tient pas grand chose.
Si à un moment donné, il y a une époque ou une période pour taper la Juve,
c'est maintenant.
À Turin,
exactement.
C'est maintenant pour Lyon. Surtout que Lyon.
Parce qu'on rappelle que Lyon n'a qu'un but d'avance.
Non, mais surtout qu'ils ont même pas besoin de gagner. Ils font un match nul, ils sont qualifiés.
Oui.
Ils perdent 1-0, ils vont en prolongation, tir au but, donc c'est pas perdu. Enfin, s'ils prennent un but, c'est pas perdu. Lyon a carrément la possibilité de le faire. Après, tout dépendra de la préparation, tout dépendra des petits bobos qu'il peut avoir, parce que faut pas oublier que il y a des matchs amicaux, il y a la finale de la Coupe de la Ligue. Paris a deux matchs avant, quand même, parce qu'ils ont les matchs amicaux aussi, mais ils ont aussi la Coupe de France avant la Coupe de la Ligue. Et puis voilà quoi. Enfin, faudra voir. Après, la Juve aura peut-être du rythme plus que une profondeur de banc beaucoup plus importante s'il y a des bobos. À voir. Maintenant, moi, je pense clairement, pour le coup, je suis pas lyonnais, mais je pense clairement, voilà, cocorico, moi, je suis français, que Lyon peut le faire et va le faire. Après, ça dépendra de plein de choses. Ça dépendra d'énormément de choses, mais ils ont clairement les armes pour le faire. Et puis,
c'est le football, c'est fait de plein de détails.
Exactement, et les détails sont importants, surtout en ce moment. Et tu parlais du rythme à l'instant. C'est vrai qu'on a du mal à juger et à évaluer, parce qu'on a d'un côté une équipe italienne qui a joué quand même la fin de saison de Serie A avec un enchaînement de matchs. C'est un rythme très intense, parce que ça joue tous les trois jours. Il y a eu la Coupe d'Italie aussi, la finale qu'ils ont perdue. Ils sont en souffrance. C'est vrai, j'ai vu les matchs aussi, mais quand même, ils ont du rythme. Alors que Lyon, ils n'auront que des matchs amicaux et la finale de Coupe de la Ligue avant d'affronter Turin. Donc finalement, l'avantage psychologique peut-être que Lyon pourrait avoir de se dire « Ah, ils sont prenables », est-ce qu'ils seront assez en jambes pour justement aller prendre la Juventus à Turin, même si la Juve n'est pas bien en ce moment?
Attention.
C'est là où il y a quand même malheureusement un gros doute.
Attention au revers de bâton, pourquoi? Parce qu'il y a encore deux journées, on pouvait dire. Moi, je disais que Lazio pouvait forcément le faire parce qu'il revenait bien et que la Juve était moins bien en cette fin d'année. La Juve, c'est vraiment pas bien.
Lazio, pas bien devant.
Voilà. Tu sais qu'ils ont que 6 points d'avance sur l'Atalanta.
Bah oui.
Donc là, maintenant, ils peuvent plus se reposer sur leur laurier. Enfin, ça va, ils ont 6 points d'avance.
Ils ont quand même une petite marge.
Oui, je suis d'accord. Mais si ils viennent à être rattrapés un peu par l'Atalanta, ils vont vraiment laisser des plumes et ils vont vraiment se rabattre sur la Ligue des Champions si dans ce cas-là ils perdent le championnat. Je dis pas qu'ils vont le perdre, mais bon, il y a un risque quand même quelque part maintenant, plus qu'avant.
C'est intéressant de parler de rythme également. Si on fait un parallèle, notamment en Ligue des Champions, tu vois que pendant des années, les clubs, notamment ukrainiens comme le Shakhtar Donetsk,
c'est pas
etc.,
facile à dire ça. Hein.
Shakhtar ou Donetsk,
mot contre triple.
Arriver à la compétition avec, tu sais, ils avaient un temps de vacances où ils étaient pendant un mois.
Non,
ou
c'est
un
parce
mois,
qu'en fait, ils
comme championnat décalé.
Voilà, championnat décalé parce que
ils jouent pas en hiver. Bon, bref, en tous les cas, ils arrivaient avec moins de rythme, et au final, ça les empêchait pas de faire des bons résultats. Donc, si t'es préparé, alors à la différence près qu'effectivement Lyon ne joue pas depuis presque
depuis le mois de mars. Hein.
Depuis le mois de mars.
Enfin, oui. Un match amical, il y a pas longtemps.
Mais je veux dire en match officiel depuis le mois de mars.
Mais Lyon l'a fait quand ils étaient dans le dur et quand la Juventus était moins en difficulté. Donc je me dis, avec une Juve très en difficulté, très dans le doute, et Lyon qui
voudrait un match à huis clos, si je me trompe pas.
L'allée
était plein.
Les scientifiques disent que c'est un miracle que le match aller n'ait pas été plus que ça.
Franchement, pour le match retour, c'est à huis clos. Donc oui, moi ils ont pas la pression des supporters.
C'est sûr, mais c'est vrai que pour revenir d'un petit mot sur le match aller, pour y avoir été, c'est vrai qu'il y avait déjà ces cas de coronavirus. Bah ouais, je sais. Dans ma rédaction, tout le monde était inquiet. Ils ont dit mais tu reviens de Lyon, il y a Lyon Juventus, qu'est-ce que t'as fait? J'étais voir les supporters italiens. En plus, mais en gardant les distances et les gestes barrières à l'époque, quand même.
Mais
j'ai fait gaffe.
Dans un stade plein.
Non, à l'extérieur avant le match, j'ai fait les interviews des supporters. Après, à l'intérieur, c'est sûr qu'on était encore. Ouais, il y avait du monde, mais ça allait en fait, parce que nous, dans un endroit assez protégé, dans la tribune presse qui se trouve au 6e étage du Groupama Stadium. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait ces craintes-là. Maintenant, c'est huis clos, et puis on verra la suite.
Bon, très bien, merci à tous. On retrouve Time Sport dans quelques instants après la pub. À tout de suite.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Time Sport. Avec Bilal Nenman.
Vous êtes de retour à l'écoute de Time Sport sur Beurre FM de 19h à 20h avec Michad Karim, Smile et notre invité Grégory ainsi que notre réalisateur Nicolas. Vous l'aurez remarqué d'ailleurs, je ne l'ai pas dit dans la présentation, ce n'est pas Bilal Nenman, c'est Simon Blachet. Comme je dis toujours, il y a plus de cheveux, mais c'est tout aussi bien, enfin j'essaye. Allez, tout de suite, notre invité du jour, c'est l'incroyable mais vrai.
Time Sport.
Nous recevons tout de suite ce soir, maintenant il est devant nous, Grégory Boulicaud, fondateur et donc dirigeant du cabinet GB Consulting, préparateur, vous êtes préparateur mental, tu m'as demandé de te tutoyer, préparateur mental et également judoka de haut niveau, hein, vous avez pris part à deux championnats d'Europe vétérans, c'est pas rien, hein, franchement, c'est pas rien du tout, comment ça va?
Eh ben ça va très très bien, super, je suis ravi d'être avec vous, merci beaucoup pour l'invitation.
Bah c'est un plaisir, alors... Dis-nous plus précisément en quoi ça consiste le rôle, l'activité de préparateur mental.
Alors on accompagne les athlètes dans le développement de leurs ressources et de leurs compétences pour essayer d'optimiser leur performance en fait. Donc le préparateur mental c'est quelqu'un qui a pas de baguette magique, hein, c'est quelqu'un qui travaille avec un certain nombre d'outils pour justement travailler et développer les habilités, de notamment les habilités mentales des différents athlètes qu'on peut accompagner.
D'accord, mais GB Consulting, il me semble, ne se dirige pas que vers les athlètes et les sportifs. Vous dirigez aussi d'autres professionnels, d'autres secteurs.
Absolument. J'ai créé GB Consulting en 2015. On a une activité qui est orientée sur les professionnels en coaching, en développement personnel. Et puis, parallèlement à ça, on a l'activité, effectivement, avec les sportifs. Aujourd'hui, chez GB, on est trois préparateurs mentaux et on accompagne une soixantaine d'athlètes dans une quinzaine de sports. Qui vont du BMX au foot en passant évidemment par une colonne vertébrale avec un certain nombre de judokas, mais également en motocross ou en snowboard ou en hockey sur glace, voilà.
Mais alors je me suis pas trompé, il me semble avoir vu sur le site aussi que vous travailliez vous essayez de coacher des gens du secteur de la restauration, de secteurs comme ça. Il y a le pont avec le sport du coup.
Oui, dans le monde de l'entreprise en fait on travaille surtout dans le développement personnel des managers et des dirigeants, et dans ce cadre là on travaille sur différents secteurs d'activité. On bosse effectivement dans la restauration, pas mal de retail parce que j'ai un parcours au départ d'un peu plus de 20 ans dans le retail, mais également dans l'industrie, dans le service. Voilà, on travaille avec un certain nombre de secteurs d'activité qui, en ce moment, vivent plus ou moins des situations un peu compliquées, notamment avec cette histoire de confinement qui a un petit peu déstabilisé à la fois le monde sportif, mais également le monde de l'entreprise.
Ouais, ça joue en ce moment, ça a joué le Covid sur vous, votre clientèle, sur le travail que vous faites avec eux?
Alors, on avait un certain nombre d'accompagnements avec des managers, donc on a continué à le faire en visio, et ça c'est quelque chose qu'on a pu faire sans trop de difficultés. Sur la partie sportive, on a continué, évidemment, on est resté en contact avec nos athlètes qui ont eu un certain nombre de difficultés à entendre qu'on stoppait dans certaines fédérations, on arrêtait tout, et puis dans d'autres, où, alors je pense au basket par exemple, on accompagne des basketteurs, la Fédération Française de Basket a pris assez tôt la décision de stopper la saison, et donc les athlètes ont pu se reprojeter du coup sur la nouvelle saison et sur leur nouveau projet, ce qui n'est pas forcément le cas pour d'autres disciplines. Je pense au judo, mais je pense à la boxe ou au BMX par exemple, où là on a stoppé et on a décalé sur le dernier quadrimestre un certain nombre de rendez-vous européens, internationaux surtout, et puis si je reste sur le judo par exemple, les cadets qui ont travaillé qui ont fait les demi-finales des championnats de France par exemple au mois de février, eux vont pouvoir réaliser leur et participer aux championnats de France mais fin octobre. Donc cette période là pour garder la motivation et être bien en phase avec les objectifs a été effectivement un peu compliquée.
Bien Grégory, tu as éveillé la curiosité de notre Smile.
Oui, petite question par rapport justement aux Jeux Olympiques, comment, quel impact sur votre travail et comment avez-vous accompagné justement ces judokas notamment qui allaient participer aux JO et donc voilà quoi.
Alors l'annonce des Jeux Olympiques et du report des Jeux Olympiques a été quelque chose qui a été vécu un peu comme un tremblement de terre pour beaucoup de disciplines évidemment. Pourquoi ? Parce que quand on prépare une Olympiade, c'est pas seulement une année ou deux années, mais on est bien souvent sur quatre ans de travail. Ce qui s'est passé, c'est que on est typiquement dans une phase de situation de changement où d'abord quand on a entendu cette annonce, on a plutôt été dans le déni. En tout cas, un certain nombre d'athlètes ont dit c'est pas possible, c'est pas vrai, qu'est-ce que je vais devenir. Et puis finalement, avec le temps et avec le bon sens, puisque de toute façon la situation ne permettait pas d'organiser les Jeux, un certain nombre d'athlètes ont réussi à se reprojeter finalement dans une nouvelle aventure, dans un nouvel objectif. Et le rôle du préparateur, ça a été effectivement de les aider justement à travailler sur ces objectifs et essayer de se projeter. Ce qui est effectivement pas simple quand on stoppe tout pendant 3-4 mois, quoi.
Meshad.
Oui, Grégory, moi je vais vous poser une question et je vais faire exprès de vous poser cette question-là.
Oh, c'est gentil.
Sois pas méchant.
Exactement. Pas méchant. Non, je vais pas être méchant, mais c'est parce que la réponse m'intéresse vraiment. Est-ce qu'à un certain niveau de professionnalisme, je parle par exemple pour là le football, la Ligue 1, etc., est-ce que le rôle de préparateur mental est vraiment utile ? Et je m'explique, je pense notamment à l'époque du Paris Saint-Germain quand il était relégué.
Yannick Noah.
Et voilà, et qu'avec Yannick Noah, ça n'avait pas du tout marché. Je pense aussi à de nombreux cas où on voit bien que le mental ne suit pas, comme des Hatem Ben Arfa, comme des Adrien Rabiot.
Ça avait marché avec le PSG. Oui, quand il avait. Oui. Ça avait bien marché avec le PSG, la pizza magique.
Et la pizza magique, et après, il gagne la Coupe des Coupes derrière, il me semble, avec Yannick Noah. Quand il arrive en tant que.
Revenons-en
on s'égare, mais.
Préparateur mental.
Et il me semble qu'il est arrivé justement à un moment où ça n'allait pas très bien à Paris. Et il vient, la pizza magique, les restaurants, etc. Et puis après, il gagne la Coupe des Coupes. Et d'ailleurs, je crois qu'il est là, il me semble. Si je dis pas de bêtises avec Noah.
Bon. Je suis pas sûr de ça. Bon, enfin, peut-être.
On vérifie.
Et pareillement, quand par exemple Zidane dit, moi je suis arrivé à un niveau et j'entraîne des joueurs tellement forts que je suis même plus là pour leur apprendre à jouer au football. Voilà, je voulais savoir si à un moment donné, à dépasser un certain niveau, si la préparation mentale était indispensable ou valable.
Alors. Tu me donnes l'opportunité de rebondir sur Zidane. Zidane, en tout cas en préparation mentale, un des sujets centrales, ça va être le notamment la gestion des émotions. Et c'est un exemple que je cite régulièrement en séance où, en 2006, il nous a fait la preuve que, au sommet de son art, il est capable à la fois d'être lucide pour réaliser une Panelka dans une finale de Coupe du Monde au top, et finalement 40 minutes après, il est capable de ne plus du tout être dans la lucidité puisque il met un coup de tête et puis il laisse la France à 10 et il arrive ce qu'on connaît ensuite de cette finale. Ce qui est sûr, c'est que la prépa mentale, pour moi, on entend beaucoup de gens qui disent que le mental c'est important, c'est 50%, 60%, 70%. Moi je fais pas partie de ces gens-là, je suis intimement convaincu en revanche que ça rentre complètement dans la réalisation de la performance au même titre que le physique, que la technique, que la nutrition. Parce qu'on peut avoir le meilleur mental du monde, si on n'a pas à minima un certain nombre de compétences à côté, ça ne marchera pas. Et pour peut-être aller dans un peu plus précisément dans le côté est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, je pense qu'il faut écouter les athlètes. Il y a des athlètes qui en ont besoin, ça c'est une réalité. Et il y en a d'autres qui en ont peut-être un peu moins besoin. Ce qui est sûr, c'est que à partir d'un certain niveau, ça permet effectivement de faire passer un cap. Et j'en ai pour preuve surtout les échanges qu'on peut avoir avec des athlètes qui nous sollicitent. Et j'ai envie de dire dans des sports qui sont aussi différents les uns que les autres, tant sur l'aspect collectif que l'aspect individuel.
Et donc c'est plutôt dans le domaine, amateur ?
Non, pas forcément. Non, pas forcément.
Okay. À tout niveau, le mental joue. Série de victoires de Thierry Diriner, au bout d'un moment, il n'y a plus que le talent.
Oui, alors
mental.
On pourrait citer Teddy, mais Teddy est suivi par une psychologue du sport depuis l'âge de 14 ans.
C'est important.
Alors volontairement pour. Voilà, il y a d'autres athlètes. On l'a vu dans le tennis, on a vu Djokovic. Djokovic est un de ceux qui a le plus travaillé les habiletés, le développement de ses habiletés mentales. Pour vous donner un exemple, alors il a travaillé avec plusieurs prépas, mais Djokovic, c'est quelqu'un par exemple qui va aller manger dans le noir. Qui va aller manger les yeux bandés pour pouvoir développer son sens, l'ouïe, qui est le seul sens continu qu'on a dans le corps, et pour pouvoir être à même de repérer un certain nombre d'informations par l'ouïe. Donc voilà, je pense que ce qui est sûr, c'est que ce qui est déterminant, c'est que ça vienne de l'athlète. Et si l'athlète éprouve le besoin de se faire accompagner, c'est vraiment dans cette démarche-là, en tout cas, que nous, on s'inscrit. On peut pas accompagner quelqu'un en prépa mentale si la personne ne l'a pas décidé intrinsèquement, en fait.
Donc, c'est pas une bonne idée si on lui impose, si un athlète se fait imposer parce qu'il a des mauvais résultats, par exemple, et qu'on lui dit, il faut que tu aies un préparateur mental pour pouvoir franchir un cap.
Faut que ce soit une démarche personnelle.
C'est une démarche personnelle, du coup.
Oui, moi j'ai pour habitude de poser la question d'ailleurs. C'est-à-dire que parfois on peut rencontrer des entraîneurs ou des dirigeants qui nous invitent à rencontrer des athlètes pour pouvoir éventuellement les accompagner. Je termine toujours ce premier contact par la question qui est de dire est-ce que c'est bien une démarche personnelle et est-ce que tu as envie de te faire accompagner. On peut pas accompagner quelqu'un qui en a pas envie. Donc ça c'est juste pas possible.
Est-ce qu'il y a un sport dans lequel votre préparation mentale est plus importante, vous faites de manière plus important?
Oui, en termes de fréquence, nous, si je prends les 15 sports et qu'on essaie de mettre une fréquence moyenne, on est plutôt sur une fois toutes les 3 semaines. On travaille avec des hockeyeurs et on travaille avec des basketteurs, où là, on est sur une fois par semaine, pour des raisons qu'on peut comprendre. En foot, on est tous les 15 jours, par exemple, pour des raisons qu'on peut comprendre, qui est lié aussi à la fréquence de leur match. Le hockey sur glace, c'est 3 matchs par semaine, donc voilà, émotionnellement, en termes de discours interne, il peut y avoir un certain nombre de situation et du coup c'est voilà, on est sollicité, sachant que dans l'approche c'est réellement à nouveau l'athlète qui sollicite le prépa, c'est-à-dire que on ne ritualise pas forcément en disant toutes les semaines, tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines.
Et vous avez des clubs aussi qui font des démarches vraiment vers vous, plutôt que des, enfin en gros qui partent sur une plutôt sur un modèle à eux, dans le sens où ils ont des préparateurs physiques et autres, et ils se disent il faut un préparateur aussi psychologique quelque part, un accompagnement psychologique, surtout qu'avec les jeunes, avec le football en haut, il y a beaucoup d'argent maintenant, où ils sont très sollicités, avec les réseaux sociaux, tout ça, énormément de pression. Est-ce que vraiment il y a des démarches aussi de clubs, au-delà d'une démarche personnelle ou de la famille du joueur?
Oui, il y a des démarches de clubs. On commence à avoir pas mal de démarches de pôle Pôle France ou de Pôle Espoir, par exemple. En centre de formation, on a, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'en France, sur 40 centres, on doit en avoir une vingtaine qui travaillent avec des prépas mentaux, et c'est tout. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est pas encore complètement dans les mœurs, même si on observe quand même sur les 5 dernières années que effectivement on a beaucoup de demandes dès l'âge de cadet 15-16 ans, où on commence à avoir envie de se faire accompagner.
Bon, une dernière question quand même. Tu as donc participé à 2 championnats d'Europe vétérans.
Alors, un championnat d'Europe et un championnat du monde, oui.
Ah, alors pardon, deux championnats d'Europe et un du
monde. Un Europe, un monde.
Bon, voilà. Enfin, ça reste du très haut niveau. D'avoir tes compétences de préparateur mental, ça t'a aidé dans tes compétitions?
Oui, ça a aidé surtout dans le fait de relativiser, de prendre du plaisir, et puis c'est ce qu'on essaie de prôner à longueur de journée, de bien maîtriser finalement cette limite entre l'enjeu et le jeu, et pas oublier la genèse finalement de bon nombre de parents qui emmènent leurs enfants faire du sport, c'est bien pour se faire des copains et prendre un moment de plaisir, et surtout pour être dans le jeu. je t'avouerai que oui, ça m'a aidé. Je sais pas, j'aurais peut-être dû prendre un prépa mental pour faire un peu mieux comme résultat. Mais c'est sûr que le travail qu'on fait sur le mental, bah, ça permet effectivement de maîtriser un certain nombre de choses, notamment en termes de motivation, en termes de fixation d'objectifs, en termes de confiance en soi, en termes d'estime de soi. C'est quelque chose effectivement qui se travaille. Le mental, c'est quelque chose qui se travaille comme le physique en fait.
D'accord. Et oui, c'est un muscle. Le cerveau est un muscle. On le découvre de plus en plus. Intéressez-vous à la science, mes petits enfants. Grégory, comment on prend contact avec GB Consulting? Vous avez un site,
Alors
réseaux sociaux?
C'est ça. On a un site internet, donc gbconsulting.fr. Et puis on est aussi beaucoup présent sur Instagram. On a un compte Instagram GB Consulting. On est présent avec une page Facebook également. Et puis on a nos bureaux qui sont à Bercy. Dans le 12e, donc n'hésitez pas à nous contacter via les messages si vous souhaitez découvrir et peut-être aller peut-être un peu plus loin dans cette approche de prépa mentale.
Super, et ben merci beaucoup,
merci
Grégory. On pousse tous les gens à faire du sport parce que c'est si ça, t'as parlé du monde professionnel et du monde sportif, pour être bien dans sa peau, un esprit sain, dans un corps sain, faites du sport mes amis. Allez, on se quitte, le temps d'une courte page publicitaire. À tout de suite sur Beurre FM avec Time Sport.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Time Sport, avec Bilal Nenman.
Vous êtes toujours à l'écoute de Time Sport sur Beurre FM avec Meshad, Karim, Smile et Grégory, notre antique invité qui est resté avec nous. On va continuer de parler sport avec toi, qui sont tous encore chaud bouillant pour vous accompagner jusqu'à 20h. Allez, maintenant on répond à l'appel de Londres, c'est la victoire.
Time Sport, la victoire.
Et oui, on répond à l'appel de Londres du colonel du London Calling, du colonel Giroud, parce qu'il n'était pas encore général, l'ami de Gaulle, quand il a fait son appel. Et oui,
effectivement.
Qui a marqué un nouveau but, ce qui permet à Chelsea de l'emporter face à Norwich et de creuser l'écart, rien que ça, avec Leicester et, ma foi, le reste des prétendants, une qualification directe pour la C1. Il y a Manchester aussi, United qui est sur une lancée phénoménale. Il y a les Wolves de Wolverhampton. Enfin, voilà. Toujours est-il que Giroud, notre ami Olivier Giroud, depuis sa prolongation, ça va bien.
Giroud du monde.
Finalement, le karting, ça va. Hein.
Ouais. Non, bon, alors pour être totalement franc, il revenait déjà un petit peu avant le confinement, quand même.
C'est vrai.
Il revenait titulaire. Il avait pris la place de Abraham. Il jouait alors qu'il était complètement mis de côté. Et là, effectivement, depuis la reprise, il est très très bon. Hier, il fait une première mi-temps qui est pas très bonne pour le coup, mais c'est le fer de lance de l'attaque, quoi. C'est-à-dire qu'on se base sur c'est le pivot par excellence. Je pense que dans son rôle, pour être totalement franc, je vais probablement me faire insulter par tous les gens dans leur voiture, mais dans son rôle de pivot, pour moi, c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur.
Il y a pas il y a heureusement y a, que certains ne sont pas là ici.
Je ne te contredirai pas. Heureusement que certains ne sont pas là
dans son rôle.
dans son
rôle de pivot, je répète, dans
oui,
son
bien
rôle
sûr,
de pivot.
Bien sûr.
Voilà. Après son rôle gêne parce que c'est pas un grand dribbleur parce qu'il est pas très rapide, parce qu'il est pas très fin, d'accord. Sauf que c'est un attaquant qui fait jouer aussi les autres attaquants. Mm.
On l'a vu au mondial, hein.
On l'a vu au mondial.
Il est utile.
Arsène Wenger, il était indispensable sous Arsène Wenger parce qu'il permettait notamment aux ailiers de remonter et il permettait au bloc équipe de remonter. Enfin voilà, c'est un joueur qui, dans un effectif, est très important. Une saison, c'est 38 matchs et contre des équipes notamment qui jouent avec un bloc bas, et ben ça permet de peser sur les défenses, ça permet de conserver le ballon. Alors contre les gros matchs, et moi je suis un grand fan d'Arsenal. C'est vrai que dans les grands matchs, matchs où avec une forte intensité et où le rythme était très rapide, il avait du mal effectivement, mais dans les matchs où des équipes contre Southampton par exemple, voilà, des équipes qui sont très dures et qui jouent avec un bloc très bas, bah, il était très utile et encore une fois, il n'y avait pas beaucoup mieux.
Et puis Grégory, on parlait de préparation mentale avant, c'est un véritable phénix Olivier Giroud, il en prend plein la poire pendant des années, il tombe, il se relève, et là il se relève encore une nouvelle fois, c'est une force de la nature au niveau mental.
Oui, je pense que mentalement, avec ce qu'il a vécu sur ces derniers mois ou voire ces dernières saisons, c'est quelqu'un qui a toujours su rester droit. Je fais l'hypothèse qu'il a une motivation intrinsèque bien développée et qu'il sait clairement où il va et qu'il donne du sens à tout ça dans sa préparation, sachant qu'il a quand même été blessé à plusieurs reprises et qu'il a toujours montré qu'il était capable de revenir. Donc oui, mentalement, je pense que c'est fort. Après, on l'aime pas. moi ça fait pas partie des attaquants qui sont que je trouve extraordinaires, si ce n'est que il s'est rendu quand même indispensable en équipe de France et on l'a vu, il a clairement participé au titre des Français sur la dernière Coupe du Monde. Ouais.
C'est vrai qu'on lui reproche de pas avoir marqué de but en Coupe du Monde. Je rappelle juste que Mbappé lui a
combien a-t-il fait marquer ?
Non mais voilà, exactement. Mbappé lui a piqué un ballon à la voilà, il a juste repoussé après, il aurait laissé passer, ça serait pour lui. Après oui, c'est pas un joueur élégant, c'est pas un joueur beau à voir, il y en a d'autres. Je paierais moins place de match pas pour lui mais pour d'autres joueurs, mais c'est un joueur efficace qui répond présent quand on a besoin de lui. Et puis voilà, c'est il est utile et puis voilà, je trouve que vraiment c'est quelqu'un que je respecte beaucoup comme athlète parce que il est bien physiquement. Après bon voilà, si tu te blesses, ça arrive, hein, c'est le destin, c'est comme ça, c'est un sport blessé, de contact. Malgré tout, il est très peu blessé pour un attaquant. Et puis voilà quoi, je veux dire, il en prend plein la gueule, que ce soit nous les Français, pourtant on est ultra chauvin, on lui crache dessus, il prend cher en France, à l'étranger, et il est encore là, c'est le phénix le gars, donc ça fait plaisir.
Et surtout, il reste ultra posé. Nous, quand on le voit en interview, par exemple lors des matchs de l'équipe de France, il reste posé dans les bons comme dans les mauvais moments. On sait qu'il est très croyant, hein, il est aussi il a cette croyance là.
Pour certains, ça fait partie de l'hygiène mentale. Hein.
Voilà, ça fait partie aussi un petit peu du mental.
L'équilibre, ouais.
Mais Giroud, c'est vrai que lui, en tout cas, il s'accroche à son potentiel et à chaque fois qu'on l'annonce enterré, il revient toujours. Et pour quelqu'un qui en fin de carrière, on va dire plus près de la fin que du début, c'est quand même incroyable qu'encore une fois il arrive à redevenir titulaire indiscutable, à marquer les buts.
C'est un modèle de professionnalisme.
Et le match d'hier, pour le coup, 1-0, but de la tête, voilà, dans des matchs très compliqués,
c'est carré.
Ça fait la différence.
Exactement. Ça fait la différence, c'est carré. Bon allez messieurs, le temps passe.
C'est vrai.
Et on file tout de suite du coup à l'étra de l'association sportive de Saint-Étienne. C'est le duel.
Time Sport. Le duel.
On file à l'étra, on arrive à l'étra.
Créé par le jingle.
Ah, il y a toujours, sur ce jingle-là, il y a toujours, il met du temps à mettre le duel. Oui, on file à l'étra où notre ami Stéphane Ruffier, lui, ça va beaucoup moins bien. Hein, l'équipe parle d'une mise à pied pour un retard à l'entraînement dû à la pose d'un strap. Selon l'équipe, ouais. Parce que l'info a été démentie dans la journée par la SSE qui a indiqué qu'aucune procédure n'avait encore été mise en route. Il est où le futur de Stéphane Ruffier ? Que fait la Saint-Etienne avec son Stéphane Ruffier ?
Et RMC Sport confirme aussi hein, le fait qu'il y ait cette mise à pied justement pour une raison qui paraît assez improbable. Parce que d'après ce que j'ai cru comprendre, il était au centre d'entraînement. Finalement, il n'a pas pu se faire strapper parce que les kinés étaient en réunion. Et donc c'est pour ça qu'il était en retard à l'entraînement, mais il était au centre d'entraînement, sauf qu'il a pas pu se faire strapper, donc il est arrivé plus tard que les autres sur le terrain. Bref, c'est une histoire quand même, on se dit, c'est pas pour ça qu'on vire un gars.
Qui est là depuis 10 ans, qui a fait gagner un trophée.
On sent un peu la fausse excuse, justement, le mettre à la porte, et vu que depuis des mois et des mois, il est mis sur le côté par Claude Puel, qui est un entraîneur quand même très, qui a ses convictions, on va dire, et lorsqu'il veut plus d'un joueur, assez tranché, et quand il veut plus d'un joueur, il veut plus d'un joueur. Et on voit avec la mise au banc, sans mauvais jeu de mots, de Stéphane Ruffier. Là, il lui dit clairement, en fait, tu seras pas le numéro 1, ce sera Jesse Moulin. Ce sera pas le numéro 2 non plus cette année. Pour un gardien comme Stéphane Ruffier.
International.
International, ça paraît juste inacceptable. Donc, ils font tout pour le mettre dehors. Après, sur cette excuse, cette mise à pied avec cette excuse, entre guillemets, du retard d'entraînement, faut faire attention parce que ça peut valoir après des plaintes devant les prud'hommes, hein, parce que ça peut être considéré comme une mise à pied, voire un licenciement derrière s'il y a faute grave abusif. Ouais.
Messieurs, Smile, Meshad, c'est ingratitude totale.
Et après, je prendrai la parole. De toute façon, t'es lyonnais, donc,
On est censé être neutre ici.
Je suis avant tout consultant, monsieur.
J'en suis la preuve.
J'aime beaucoup Saint-Etienne, j'ai toujours aimé ce club. Voilà, j'ai toujours aimé cette couleur, couleur verte aussi. Non, sérieusement.
Je trouve ça dommage.
Non, clairement, c'est à l'image, clairement du club, ces dernières saisons. Et c'est même à l'image de la saison qu'on a pu voir, là. Enfin, le club a une gestion particulière en ce moment. Je vais pas dire mauvaise parce que je suis pas patron d'entreprise.
Pas qu'en ce moment, d'ailleurs.
C'est particulier, c'est très négatif. Deux présidents avec deux idéaux différents, je veux dire, et des ambitions différentes sur le club, et pas de projet réellement. T'as Puel qui arrive, il met de côté Ruffier, quand même, qui est un monument au club. Le club, merci le Covid, parce qu'ils auraient pu descendre en Ligue 2, clairement.
Ouais, ils ont sauvé,
trop droit à la direction. Ils ont pris la direction.
Sur une pente très, très glissante.
C'est ça, donc, pas d'argent en investissement, donc là, ils vont se permettre de mettre Ruffier de côté. donc de le perdre, donc forcément payer potentiellement des indemnités, peut-être avoir un prud'homme. Enfin, je veux dire, c'est pas bon pour leur image, c'est peut-être pas forcément bon aussi pour leur finances. On a beaucoup de bons gardiens en France, c'est à quoi récupérer un autre gardien, ça va être très compliqué. La saison n'a pas encore commencé pour nos amis stéphanois.
Et puis ils ont la finale de Coupe de France. Sapin.
Et la Coupe de France, mais c'est très bien ce qui va se passer en Coupe de France avec
c'est quand même une affiche quand même. Enfin, pour Saint-Etienne, de jouer une finale de Coupe, c'est quand même pas tous les matins. Donc,
oui, mais t'imagines que même.
Pas faire un pli pour
excuse-moi, Simon. T'imagines juste que les supporters ne montent pas aussi. Enfin, oui. Tu te rends compte quand même du malaise. Enfin, Saint-Etienne, c'est.
Oui, mais attention, les supporters qui ne montent pas, c'est aussi en protestation, en fait, qu'ils aient très peu de place par rapport à la répartition sur les 5000 personnes présentes.
Ça, je le comprends.
Et que 900.
Après, ça, je le comprends aussi, mais ça reste. Combien de fois? Attends. Sur 10 ans, donc combien de fois tu vas voir Saint-Etienne en finale de Coupe de France?
Bah, très peu, je sais.
Ouais. Il faut y aller au Stade de France. Ils vont plus le voir sinon ils vont le voir à la télé.
Bon, messieurs.
Oh, t'as vu faire des grands gestes.
Ah, bah oui, parce que
comment on les arrête
pas sur les verres. Sinon,
ils sont là contre le terrissage.
Bon, allez.
Il faut le dire à l'antenne.
Il faut la finir, cette émission, messieurs. On va la conduire jusqu'au bout, pardon, et on va la finir avec les JO. C'est le mode pressing.
Time Sport, le mode pressing.
Et oui, très rapidement, messieurs, les Jeux Olympiques, pardon, le Comité Olympique japonais, c'était censé être à Tokyo en 2020, par l'intermédiaire de son président Yasuhiro Yamashita, a annoncé que les Jeux Olympiques, repoussés donc en 2021 à cause de la pandémie de Covid-19, pourraient être réduits. Je cite, ce monsieur Yamashita, « Les Jeux que j'ai connus auparavant étaient magnifiques et extravagants, mais je ne pense pas que le concept de ces Jeux poursuivra ses objectifs. La première priorité est d'être en sécurité. » Très rapidement, messieurs, qu'est-ce qu'on fait de ces JO au rabais, du coup?
Bah, au rabais, oui. Après, je connais assez bien la culture japonaise, moi. Je suis très fan de manga et de culture japonaise. Ah, je suis pas japonais, mais un peu quand même, voilà. Non, voilà, j'aime beaucoup le Japon. J'y suis allé il y a pas longtemps en plus. C'est un peuple qui est particulier parce que c'est un peu assez refermé aussi sur eux-mêmes, qui sont très respectueux aussi des gestes barrières. Déjà, ils portent des masques quasiment tout le temps en hiver. Voilà. Et ça va être compliqué quand même déjà d'accueillir le continent européen et d'autres continents aussi sur leur pays. On n'a pas forcément la même rigueur aussi qu'eux, beaucoup moins. En tout cas, je parle pour la France, pour le coup, on a un petit peu du mal, confère les derniers épisodes qu'on peut voir à la télévision ces derniers temps. Voilà. Et des Jeux Olympiques au rabais, enfin, je veux dire, il faut des Jeux Olympiques parce que quelque part, je vais faire un parallèle avec ce que disait notre ami en tant que préparateur mental et psychologique, je veux dire, sur l'accompagnement, il faut que ça se fasse parce qu'on a besoin de ces autres sports-là, on a besoin de ça, ils ont besoin de ça aussi. Maintenant, à quel prix dans ce cas-là, il faut les réduire, bon, on les réduira, on aménagera. C'est particulier, ce sera historique et puis voilà. Et puis,
allez, on finit avec toi, Karim, très rapide.
Réduire, mais réduire où? Réduire comment? Réduire quel sport? Est-ce qu'il faudrait réduire
certaines disciplines,
les formats des épreuves, certains sports qui seraient à la trappe alors qu'il y a déjà eu des qualifications dans certaines disciplines? Par où on commence ce chantier-là en un an? Ça me paraît quand même très compliqué, autant pour Paris 2024. Là, ils pourront se poser la question parce qu'il y a 3 ans, etc. Enfin, il y a 4 ans encore, 3 ans après les Jeux de Tokyo. Mais pour Tokyo l'année prochaine, ça me paraît quand même très compliqué de réduire.
Bon, allez, Grégory, le mot de la fin pour toi.
Oui, le mot de la fin. Bah, Yamashita, c'est un grand champion de judo et du coup, effectivement, j'ai lu son article et ils ont des gros soucis financiers. Hein. L'annulation leur a posé des vraies difficultés financières et ils sont obligés de refaire des prêts. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui on est dans ce schéma-là de vouloir réduire et de trouver un format un petit peu différent.
Bon, et oui, en effet, le Japon risque gros avec ses JO au rabais, JO annulés, JO repoussés.
Mais c'est légitime.
Un grand merci à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Beurre FM d'avoir suivi Time Sport. Merci à l'équipe de ce soir, Meshad, Karim, Smile, notre invité Grégory et notre réalisateur, pardon, Nicolas, ainsi que l'ensemble de l'équipe de Time Sport. Allez, Time Sport vous donne rendez-vous demain à la même heure, 19h-20h. Bonne soirée à tous sur Beurre FM.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.